Vous écoutez, on lit pour vous.
Se faire opérer en France pour éviter de voir sa santé se détériorer, un texte de Florence Morin-Martel, paru le 26 février 2026, dans Le Devoir. Un entrepreneur québécois a dû traverser l'Atlantique pour subir une intervention au cœur plus tôt en février 2026. Il s'est rendu en France parce qu'il refusait de voir sa santé se détériorer, raconte-t-il, en raison des délais et des effets secondaires du médicament qu'il devait prendre jusqu'à l'opération. Son message aux Québécois est sans détour: mettez de l'argent de côté pour votre santé, car sinon vous risquez vraiment d'être dans le pétrin. Lorsqu'on est en urgence et que l'on a besoin de services, le système n'est pas là. Je trouve ça hallucinant, lance Daniel Couillard en entrevue avec Le Devoir. Son histoire commence en 2017, lors d'un voyage d'affaires en France. Un matin, en arrivant au comptoir de l'hôtel pour régler sa note, il se sent soudainement très faible et étourdi. Son cœur s'emballe, puis il tombe au sol, raconte l'homme aujourd'hui âgé de 63 ans. Transporté d'urgence dans un hôpital de Marseille, il reçoit le verdict: fibrillation auriculaire. En bref, son cœur bat de façon irrégulière parce que les signaux électriques qui coordonnent les battements sont désorganisés. Cette arythmie augmente son risque d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ça a été un choc, se remémore-t-il. De retour au Québec, quelques jours plus tard, il rencontre un cardiologue en Montérégie. Celui-ci le rassure: avec des médicaments, il pourra mener une vie normale. Pendant plusieurs années, le traitement fonctionne. Mais à l'été 2025, M. Couillard recommence à souffrir d'arythmie, malgré les traitements. Médication et attente. Afin d'éviter des récidives, son nouveau cardiologue, rencontré après son déménagement dans les Laurentides, lui recommande l'ablation pour traiter la fibrillation auriculaire. L'intervention consiste à brûler les zones du cœur responsables des signaux électriques défectueux. Ces cicatrices ciblées empêchent les courts-circuits et rétablissent un rythme stable. En attendant l'opération, son médecin lui prescrit de l'amiodarone, un médicament efficace contre l'arythmie et qui peut être utilisé pour stabiliser l'état d'un patient d'ici à l'ablation. Il peut cependant causer d'importants effets secondaires et, entre autres, affecter le foie et la vision du patient. M. Couillard raconte d'ailleurs avoir commencé à ressentir de tels effets après quelques mois, dont de l'épuisement et une vision troublée par l'apparition de taches blanches. À l'automne, il est finalement vu à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, vers lequel il a été dirigé. Là-bas, on l'informe qu'il pourrait attendre entre 6 à 12 mois avant d'être opéré, affirme-t-il. Après discussion, il est mentionné que le délai pourrait même aller jusqu'à 18 mois, ajoute M. Couillard. Les bras me sont tombés. Attendre aussi longtemps n'est pas une option pour Daniel Couillard. Le système me dit, ni plus ni moins, « Va mourir à petit feu, puis tant pis pour toi. » Pour certains patients, une cible clinique de 12 semaines ou moins est prévue dans l'échelle provinciale de priorisation pour ce type d'intervention, indique Santé Québec. Interrogé par Le Devoir, la porte-parole, Geneviève Bété, précise qu'il s'agit d'une balise de référence. À l'échelle provinciale, la Société d'État affirme ne pas publier de délai moyen pour les ablations visant à traiter la fibrillation auriculaire. Les temps d'attente varient selon la complexité des cas, ajoute Mme Bété. Ce traitement est proposé d'emblée chez certains patients depuis quelques années, ce qui a fait bondir le nombre de demandes. Questionné au sujet des listes d'attente actuelles pour cette intervention, le CIUS du nord de l'île de Montréal, qui comprend l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, indique que ces procédures sont regroupées avec d'autres ablations complexes, ce qui rend difficile l'établissement d'un délai précis. Les cas sont priorisés par les médecins en fonction de la condition clinique et de la gravité, écrit-il. Une chance qui n'est pas donnée à tous. Au Québec, seuls certains centres désignés, choisis en fonction de leur expertise et de leur équipement, peuvent réaliser cette intervention afin que soit maintenu un haut niveau de compétence et de sécurité. Elle ne peut donc pas être effectuée au privé. Daniel Couillard a vérifié s'il était possible de subir l'opération dans d'autres provinces, sans succès. Il s'est ensuite tourné vers la France, où les coûts sont inférieurs à ceux des États-Unis et où son fils vit depuis 12 ans. Le 6 février 2026, M. Couillard a finalement été opéré dans un hôpital privé de Marseille. L'intervention, d'une durée de 3 heures, s'est bien déroulée, tout comme la convalescence. Moi, contrairement à beaucoup d'autres Québécois, j'ai la chance d'avoir de la famille en France. Ça facilite les choses, souligne-t-il. La facture pour l'opération s'est élevée à plus de 20 000 $ canadiens, sans compter les frais de déplacement. Je suis un privilégié, j'avais l'argent nécessaire. Mais imaginez tous ceux qui ne l'ont pas, se désole-t-il. Daniel Couillard affirme avoir l'impression de s'être fait avoir. J'ai payé des impôts toute ma vie et là, j'ai vraiment besoin d'un service et on ne me le livre pas. Il y a 2 semaines, il a raconté son histoire sur le réseau social professionnel LinkedIn. Les réactions ont afflué. J'ai reçu des centaines de messages personnels. Je ne suis pas seul. Et on voit que les gens sont dépourvus. Éloge pour le personnel médical. M. Couillard tient à préciser qu'il ne blâme pas les soignants. Je n'ai que des éloges envers ces gens qui se dévouent et travaillent avec compassion. Selon lui, ce qui les rend merveilleux dépasse leurs compétences médicales. C'est également leur résilience à continuer de travailler dans cet environnement dominé par une administration dysfonctionnelle. Appelé à réagir, Santé Québec dit comprendre que toute attente pour une intervention cardiaque puisse générer de l'inquiétude et de la frustration, sans toutefois commenter de cas particuliers. Des travaux sont en cours afin d'optimiser la trajectoire des patients et d'améliorer l'accès aux interventions spécialisées dans un contexte où la demande pour ces traitements est en croissance constante, souligne Geneviève Bété, porte-parole de la Société d'État. C'était Se faire opérer en France pour éviter de voir sa santé se détériorer, un texte de Florence Morin-Martel, paru le 26 février 2026 dans Le Devoir.
Que doit-on arrêter de lire? Un texte de Thierry Morissette, paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir. Ces textes, dans leur ridiculité même, touchent peut-être au vrai malgré eux, à leur insu. Il y a quelques semaines de cela, je me suis retrouvé, entre 2 examens, à perdre mon temps à fouiller dans la grande bibliothèque de bois pâle qui trône dans mon salon. Voilà que, en cherchant une œuvre qui saurait fournir un corps et une substance à ma procrastination, je suis tombé sur un minuscule texte au dos pas plus large qu'une pièce de 25 sous dont j'avais, en toute honnêteté, oublié l'existence. Dans son essai sur les femmes, Arthur Schopenhauer présente, sur une vingtaine de pages, le texte le plus misogyne que je suis venu à lire dans ma courte vie. Surprise, surprise, il n'avait pas beaucoup de succès avec les femmes. Dans des formulations tout aussi aphoristiques les unes que les autres, il aligne des remarques d'un sexisme qui m'a d'abord paru classique. Les femmes sont superficielles, idiotes, par nature destinées à obéir, incapables de réaliser de grandes choses. Ailleurs, un peu plus original, la débilité des femmes leur confère un enjouement enfantin. Le tout caractérisé par une féroce et un sarcasme tels que mon petit cerveau d'étudiant pseudo-woke en est resté stupéfait. Voyez-vous, il est franchement commun, dans tout parcours littéraire, de rencontrer des œuvres qui présentent des opinions reçues qui trahissent une socialisation qui contraste avec la sienne. Dans la plupart des écrits qui ont su traverser le temps, aussi éloignés de nous qu'ils puissent être dans tous les sens du terme, il reste qu'on en vient habituellement à surpasser ces dernières, ces billets qui semblent, dans l'étendue d'une œuvre, accessoires, et ce, de façon à principalement s'attarder à la capacité de ces textes à révéler et à explorer ce qui est et ce que peut être l'existence humaine. Mais sur ce coup-là, franchement, Schopenhauer, il m'a bien surpris. Il m'a proposé un essai si vide de toute argumentation habilement construite ou justifiée que j'en suis resté médusé. Je me suis retrouvé assis sur mon divan avec une bière de fin de session à la main à me demander si je venais, à la place de procrastiner, de perdre mon temps. Parce que c'est une chose de lire un texte sur lequel une époque a laissé sa marque, mais c'en est une autre de se pencher sur une œuvre qui paraît être un pur produit social érigé dans la plus complète contingence et la plus vaine lubie. Et il semble parfaitement sensé de se questionner sur l'intérêt du second, sur la pertinence qu'il y aurait à se pencher sur une montée de lait vieille de 200 ans, sur une proposition comiquement abrutissante. Doit-on arrêter de lire ce genre de texte? Il y en a d'autres, plein d'autres. Non pas parce qu'il serait pervers ou dépassé, mais parce qu'il serait non pertinent, parce qu'il serait incapable de toucher à toute chose qui serait moindrement vraie ou même vraisemblable. Voilà toutefois que, en y pensant ne serait-ce qu'un peu, il semblerait plus que possible de voir en quoi ces textes, dans leur ridiculité même, toucheraient au vrai, malgré eux, à leur insu. Outre la valeur sociologique, historique, politique, herméneutique et autres hic qu'il serait possible de cultiver dans ses œuvres, et outre le fait évident que l'on ne puisse pas raisonnablement se prononcer sur la valeur d'un ouvrage avant de l'avoir lu, il reste que la lecture de ces textes nous mène aussi, de façon plus simple et, selon moi, plus intéressante, à se heurter à un exemple de la démesure possible chez l'être humain. Il nous révèle en quoi des individus, pourtant intelligents, peuvent écrire des choses qui ne le sont pas. Ils illustrent en quoi l'excellence, où qu'elle se présente, se manifeste toujours par éclat. Leur ridiculité nous ridiculise, ou du moins nous invite à le faire. L'autodérision, il me semble, n'est pas ce qui manque à la race humaine. Continuons donc à lire non seulement le bon, mais aussi le banal, le bancal et le mauvais, qui semblent tout aussi essentiels à considérer dans ce « connais-toi-toi-même » commun dans lequel nous sommes tous, je l'espère, engagés. C'était « Que doit-on arrêter de lire ?» un texte de Thierry Morissette, paru le 29 janvier 2026 dans Le Devoir.
Porte notre génétique, une diète saine prolonge la vie. Un texte de Pauline Gravel, paru le 14 février 2026 dans Le Devoir. Manger sainement diminue la mortalité et augmente l'espérance de vie, et ce, indépendamment de notre profil génétique. C'est ce que confirme une nouvelle étude effectuée avec les données biomédicales de 104 000 personnes. Les auteurs de cette étude, qui est publiée dans la revue Science Advances, ont cherché à savoir s'il existait une association entre l'adhésion à l'un ou l'autre de cinq régimes alimentaires reconnus pour être sains et la mortalité ainsi que l'espérance de vie. Pour ce faire, ils ont fait appel à la UK Biobank, qui est une base de données rassemblant des échantillons biologiques, des informations sur la santé, la génétique et le mode de vie de 500 000 personnes vivant au Royaume-Uni qui ont accepté de fournir leurs données biomédicales pour la recherche. Les chercheurs de cette étude ont analysé les données ayant été accumulées pendant 11 ans sur 104 000 participants de la UK Biobank. Les cinq régimes alimentaires pris en compte dans cette étude présentent énormément de similarités dans le sens où ils mettent l'accent sur l'apport en fruits, en légumes, en grains entiers. Et ils vont souvent attribuer un score négatif à la viande rouge et aux boissons sucrées. Résume Anne-Julie Tessier, professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal et chercheuse à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui a publié une étude très semblable en 2025 dans Nature Medicine. L'approche alimentaire pour stopper l'hypertension, Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH, se distingue des quatre autres par le fait qu'elle est beaucoup plus stricte sur le sodium. Le régime alimentaire végétal sain, Healthy Plant-Based Diet Index, HPDI, attribue quant à lui des points négatifs à tout aliment d'origine animale, produits laitiers, œufs, poissons et fruits de mer, et accorde des points positifs aux aliments à base de plantes, sauf aux grains raffinés, aux jus de fruits et aux pommes de terre. Ces dernières sont également bannies de l'indice alternatif d'alimentation saine, Alternate Healthy Eating Index, AHEI. Dans le régime méditerranéen alternatif, Alternate Mediterranean Diet, AMED, on valorise la consommation de poissons et on insiste sur la consommation de fruits et de légumes. Le régime alimentaire de réduction du risque de diabète, Diabetes Risk Reduction Diet, DRRD, a été élaboré à partir de données scientifiques dans le but d'obtenir un régime optimal pouvant être associé à une diminution de l'inflammation et de la résistance à l'insuline, notamment, souligne Mme Tessier. L'étude a montré que ces cinq modèles alimentaires diminuaient de 18 à 24 selon l'assiduité des participants à suivre le régime, le risque de mortalité, toutes causes confondues. Qui plus est, il permettait de gagner de 2 à 3 ans de vie supplémentaire chez les hommes de 45 ans et de 1,5 à 2,3 années chez les femmes. Les auteurs soulignent aussi le fait que ces régimes alimentaires sains prolongeaient l'espérance de vie, peu importe que les individus soient porteurs ou non de gènes de longévité. Les auteurs précisent que les cinq régimes étaient tous associés à un risque moindre de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral, cancer, diabète de type 2, ce qui expliquerait une espérance de vie prolongée pour ceux qui ont adopté une de ces diètes. Mortalité et diabète. Les résultats indiquent que le régime alimentaire de réduction du risque de diabète, DRRD, était celui qui avait le plus d'effet sur la diminution de la mortalité, toutes causes confondues. Cette association est même apparue plus forte chez les personnes portant des gènes, les prédisposant à une espérance de vie plus courte, ainsi que chez les fumeurs actuels et anciens. Selon les auteurs, ce résultat pourrait s'expliquer par l'apport en fibres et le faible indice glycémique visé dans le régime DRRD. Cela est tout à fait plausible, affirme Mme Tessier. Les fibres alimentaires que l'on retrouve dans les fruits, les légumes et les grains entiers aident à contrôler la glycémie. Or, un mauvais contrôle de la glycémie est relié aux maladies cardiovasculaires, lesquelles influent sur la santé du cerveau, ce qui explique le lien avec la mortalité d'une manière générale. Une autre explication possible est qu'une diète qui est particulièrement efficace pour améliorer la sensibilité à l'insuline, comme la DRRD, pourrait avoir un plus grand potentiel pour prévenir des maladies chroniques et des décès prématurés, car la sensibilité à l'insuline joue un rôle crucial dans le développement et la progression des maladies chroniques, avance-t-il dans leur article. L'insuline est la clé qui permet au glucose d'entrer dans les cellules de notre corps où il sera utilisé. Quand une personne a développé une résistance à l'insuline, ses cellules répondent moins bien à l'insuline, ce qui entraîne une accumulation de glucose dans la circulation sanguine qui aura un effet négatif sur les vaisseaux sanguins, explique Mme Tessier. À ce propos, les résultats de leur étude indiquent qu'une alimentation ayant un indice glycémique élevé, c'est-à-dire dont les aliments provoquent une augmentation rapide et importante du taux de sucre dans le sang, était associée à une augmentation de la mortalité, toutes causes confondues. Ces modèles alimentaires mettent l'accent sur la consommation de légumes, de fruits et de grains entiers qui sont riches en fibres, en flavonoïdes et en autres antioxydants, des composés qui contribuent à améliorer la régulation du métabolisme, à réduire l'inflammation et à maintenir en équilibre le microbiote intestinal, indiquent les chercheurs. Le potentiel antioxydant de ces régimes pourrait expliquer la très forte association observée entre le régime DRRD et la réduction de la mortalité chez les fumeurs, étant donné que le tabagisme est reconnu pour augmenter le stress oxydatif, l'inflammation et une dysrégulation du métabolisme, font-ils remarquer. Ils soulignent également que les différents régimes déconseillent les boissons sucrées qui favorisent la résistance à l'insuline, la conversion des glucides en triglycérides par le foie, qui perturbent le microbiote intestinal et, de ce fait, entravent le métabolisme général. C'était « Peu importe notre génétique, une diète saine prolonge la vie. » Un texte de Pauline Gravel, paru le 14 février 2026 dans Le Devoir.
Comment est née la petite Italie? Un texte de Daniel Bromberg, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Urbania. Le récit de la façon dont la communauté italienne s'est installée à Montréal ne commence pas avec un petit café de quartier affichant une rutilante machine, la Marzocco, dans sa vitrine. Il débute il y a plusieurs générations, au 18e siècle, lorsqu'une poignée d'Italiens du Nord arrivent comme soldats, commerçants et artisans. Vers la fin des années 1800, des hommes originaires du sud de l'Italie, la plupart jeunes, pauvres et seuls, débarquent par vagues à la recherche de travaux éreintants et de salaires encore plus rudes. Poser des rails, creuser des mines, abattre des forêts. Même si la majorité de ces jobs étaient temporaires, très peu sont retournés en Italie. La majorité a choisi de rester pour commencer une nouvelle vie à Montréal. Femmes et enfants ont bientôt suivi. Les familles se sont enracinées. Au début du 20e siècle, des entreprises ferroviaires telles que la Canadian Pacific et Grand Trunk offraient des emplois stables et une communauté s'est tissée. Des lieux de culte et de rencontres se sont construits, dont l'église Notre-Dame de la Défense, entièrement composée de briques rouges et que l'on peut toujours apercevoir à l'est de la rue Dante. L'ouverture de telles institutions signale une communauté qui est là pour rester. L'immigration augmente surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1946 et 1960, des milliers d'Italiens arrivent grâce au programme de réunification familiale. Tous convergent vers le secteur autour du marché du Nord, mieux connu aujourd'hui sous le nom de marché Jean Talon, et y retrouvent le réconfort de la nourriture, de la foi et de la communauté. C'est à ce moment qu'on a commencé à appeler le quartier Piccola Italia, et le surnom est resté. Les choses basculent à nouveau dans les années 1960. Le secteur manufacturier avait besoin de plus de main-d'œuvre et les Italiens ont répondu en masse, ambitieux, flexibles et dotés d'une grande ingéniosité. Les Italiens de première et deuxième génération ont bâti un héritage. Aujourd'hui, la petite Italie doit encore beaucoup à ses débuts, avec des commerces familiaux multigénérationnels, bars à espresso, épiceries, restaurants, qui portent encore la marque de celles et ceux qui les ont façonnés au fil des siècles. C'était « Comment est née la petite Italie », un texte de Daniel Bromberg paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Urbania.